Des œuvres de métal fondu, un travail sur l'écriture. Découvrons Guy Pierre, manœuvre de l'écriture.
Les œuvres que j'expose donc dans cet office de tourisme est un ensemble d'œuvres qui retrace une partie, une bonne partie de ma vie, qui s'est composée d'abord en œuvres monumentales, dont vous avez certaines maquettes ici, dont une qui est assez représentative, qui est probablement une de mes œuvres les plus importantes, qui figure sur un rond-point en face d'Airbus Industrie à Blagnac, qui a la particularité, on peut dire, de faire quand même 12 mètres de haut et 12 tonnes. Donc une petite série d'œuvres, de maquettes d'œuvres monumentales, accompagnées d'un travail qui est très particulier, qui est un travail basé sur l'écriture. Alors, qui se présente en écriture en métal. Je dis bien en écriture parce que les gens qui vont venir le voir vont probablement croire dans un premier temps, première approche, qu'il s'agit de fer tordu ou de métal justement formé, déformé ou conformé. Eh bien non, il s'agit d'écriture métallique. C'est-à-dire je suis l'inventeur. Vous allez vous imaginer un stylo, un gros stylo, qui a la particularité d'écrire avec du métal. C'est-à-dire, vous, lorsque vous écrivez, votre stylo, il a une cartouche d'encre. Il est donc tout à fait logique et normal que la trace soit de l'encre. Eh bien, moi, j'ai un gros stylo, j'ai inventé une sorte de gros stylo, qui a de l'acier qui est en fusion, donc à 1450 degrés, et qui, au fur et à mesure qui s'écoule du bec de mon stylo, se solidifie. Et donc ce que vous allez voir est vraiment de l'écriture. Et lorsque j'ai inventé ce procédé, je me suis dit, bon, que vais-je faire? Parce que c'est bien, on invente, mais qu'est-ce que l'on fait avec? Et comme j'avais déjà écrit plusieurs recueils de poésie à une certaine époque, j'ai commencé par mettre ma poésie, ma propre poésie, en trois dimensions. Et puis au fur et à mesure, j'ai rencontré des artistes, des écrivains, des poètes. Et depuis ce jour-là, je deviens le manœuvre de ces gens-là. C'est-à-dire que j'interprète leur travail d'écriture. Notamment ici, j'ai voulu présenter un poème d'un Irakien, de Salah al-Abdani, que j'ai rencontré à Paris voici quelques années. Je ne le connaissais pas. J'ai découvert sa poésie qui m'a interpellé. Et j'ai donc interprété un de ses poèmes qui s'appelle « Seul le vieux tapis fleurissait le sol ». Voilà. J'ai travaillé, ça fait à peu près 2 ans, sur un poème de Bernard Noël, qui est un de nos poètes les plus importants à l'heure actuelle en France. J'ai travaillé aussi avec... J'ai eu la possibilité d'exposer aux voies de la Méditerranée, ce qui m'a permis justement d'être en contact avec pas mal de poètes. Hein, c'est la semaine de la poésie. Et donc ça m'a permis de rencontrer des poètes avec lesquels, bien sûr, il y a eu un échange et de suite une interprétation de leur poésie. Voilà. J'ai aussi ce qui est affiché sur un écran donc, de votre office de tourisme, qui est un poème de Jacques Salomé. On connaît Jacques Salomé pour tous les ouvrages qu'il a écrits sur la relation difficile entre les femmes et les hommes, mais je ne connaissais pas ces poèmes. Nous nous sommes rencontrés au salon du livre à Brive, voici à peu près 3 ans. Il a été interpellé, enfin il a apprécié donc mon travail, et quelques jours plus tard, en revenant sur Balma, je reçois un courrier de ce monsieur en me disant « Est-ce que vous accepteriez d'interpréter un de mes poèmes ?» Alors c'est, ben oui, donc parmi les 10 ou 12 poèmes qu'il m'a envoyés, j'en ai pris un et je l'ai interprété. Voilà, ça c'est intéressant parce que C'est cette confrontation, c'est cette rencontre, en fin de compte, du poète que je suis avec les autres poètes. Et je suis content d'être quelque part le manœuvre de ces gens-là.
Les manœuvres travaillent beaucoup, c'est bien connu. Mais pas sur les ambilogues. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Jusqu'à présent, on connaissait ce qu'étaient les faux amis, hein, dans deux langues différentes. Par exemple, si on prend l'espagnol et le français, par exemple, le mot constipado. Quelqu'un qui est français qui ne connaît pas l'espagnol, s'il entend le mot constipado, de suite, il pense bien sûr au mot constipé. Or, ben non, être estar, être constipado en espagnol, c'est tout simplement être enrhumé. Hein. Donc, c'est ce que l'on appelle des faux amis. Eh bien, moi, j'ai créé autre chose qui sont les ambilogues. Alors, les ambilogues, ce sont deux mêmes mots dans deux langues différentes qui s'écrivent de la même manière, qui n'ont pas le même sens et qui, employés dans une phrase bilingue, donnent un sens à cette phrase. Alors, ça paraît assez compliqué et c'est très simple. Hein. Par exemple, alors, j'ai exposé deux, trois ambilogues ici. Voilà. En voici un qui s'appelle œuvre pi, qui s'écrit donc P-I-E, virgule, el pie del Cristo. Alors, le mot qui est doublé, c'est le mot pi et pied. El pie, en espagnol, s'écrit P-I-E, hein, el pie. El pie, donc c'est le pied. Alors, c'est une œuvre pieuse, c'est-à-dire, œuvre pi, ça s'appelle, hein, œuvre pi, virgule, donc une œuvre pieuse, el pie del Cristo, le pied du Christ, en quelque sorte. Si j'étais un artiste peintre et que quelqu'un viendrait me faire une commande pieuse, qui me dirait « s'il vous plaît, faites-moi une œuvre pieuse », eh bien, qu'est-ce que je ferais ? Je pourrais représenter le pied du Christ. Donc cet ambilogue dit bien « œuvre pie, œuvre pieuse, virgule, el pie del Christ ». Voilà. Voici un de mes ambilogues. J'ai essayé pendant plusieurs années de faire un ambilogue avec le mot « dos », « do ». Hein, dos en espagnol qui est deux. Et j'avais rien fait de vraiment de bien, de terrible. Et je me suis dit, bon, un jour ou l'autre, ça viendra. Or, ça fait 3 ans de ça, un élève de 4e en langue espagnole du collège de Balma, qui était jusqu'à présent le seul chez lui, donc le roi. Jérémy était le seul, donc sa maman autour de lui, mon petit Jérémy par-ci, par-là. Manque de peau, Jérémy a eu une petite sœur, laquelle a pris, bien sûr, toute l'affection que lui portait sa mère. Et il nous a pondu cet ambilogue que j'ai voulu exposer ici, que je trouve d'ailleurs superbe, très intéressant, qui dit « Mi hermana, donc ma sœur, tiene dos años, à 2 ans, virgule, j'en ai plein d'eau. » Voilà. J'ai trouvé ça très, très intéressant.
Des œuvres monumentales tout droit sorties des poubelles. Le recyclage a aussi sa place dans la création artistique, non ?
Toutes les maquettes que vous verrez ici, toutes mes œuvres monumentales ont été faites à partir d'éléments de récupération. À cette époque-là, j'étais quelqu'un qui faisait les poubelles. Hein, et c'était intéressant parce qu'à cette époque-là, j'allais presque dire que l'on jetait facilement l'acier. Alors que maintenant, pour le récupérer, c'est plus difficile, ça coûte beaucoup plus cher. Et j'étais quelqu'un qui, effectivement, allait dans les grosses entreprises, qui découpait à partir de plaques assez épaisses. Hein, parce que, tenez, vous avez cette pièce-là, c'est un élément qui sort d'une plaque de tôle qui a à peu près 14-15 cm d'épaisseur. Hein. Donc je récupérais des éléments et voilà ce que ça a donné. Alors, une petite anecdote par rapport à une des pièces que je vous montre là. Je crée cette œuvre-là. Au départ, dans ma tête, je n'avais aucun but, aucune. Je n'ai jamais dessiné comment mes œuvres. C'est par rapport à la rencontre physique avec un élément qui m'inspire que je crée. J'ai créé cette œuvre-là, et puis une fois terminée. J'aurais souhaité y donner un nom, mais bien souvent, je ne donne pas de nom à mes œuvres. Je préfère que les visiteurs eux-mêmes nomment, interprètent. Non. Je termine cette œuvre-là et j'avais à cette époque un ami qui m'était cher plusieurs raisons, et pour une autre aussi, quelque part, il faut être clair, puisque c'était le PDG de la Banque Courtois, qui était une banque privée de Toulouse et de sa région, que j'avais rencontrée, et qui avait beaucoup aimé mon travail, et qui, à cette époque-là, m'avait acheté quelques œuvres. Et quand il a découvert cette œuvre-là, c'est vrai que tout le monde m'a dit, mais elle ressemble à l'écureuil de la caisse d'épargne. Et il m'avait dit, Guy Pierre, promettez-moi de ne jamais la vendre à la caisse d'épargne.
N'oublions pas que l'écureuil est connu pour sa petite tête et qu'il ne sait jamais où sont ses économies. Guy Pierre, tout le mois d'octobre à l'Office de tourisme du Saint-Afrique.